Tu sais qui je suis ?
Elle acquiesça silencieusement.
Alors si tu sais qui je suis, rentre chez toi, déposer l'eau et viens me rejoindre.
Père ne voudra pas,
dit-elle calmement. Peut-être se laisserait-il plus facilement convaincre si j'allais le voir moi-même, ne crois-tu pas ?
Ce n'est pas la peine,
répondit-elle.
Je vais revenir.
Elle revint comme promis. Il se promena à ses côtés sur un chemin qui descendait du village vers la vallée où il la fit asseoir à ses côtés à l'ombre d'un olivier. Il lui caressa d'abord les paupières, du bout des doigts, et il lui sembla qu'il se mettait à rêver un rêve fragile, menaçant à tout moment de se transformer en cauchemar, et il supplia la fille de le regarder, bien qu'elle fît tout pour fuir son regard, tournant la tête sur le côté en cachant son visage de son avant-bras, si bien qu'il dut lui maintenir fermement les poignets au sol en répétant « Regarde-moi » jusqu'à ce qu'elle ouvre enfin les yeux et le regarde bien en face sans ciller, pour qu'il puisse se perdre dans l'azur et rêver sans crainte avec au-dessus de lui l'amical bruissement des feuilles d'argent sous le vent, et très loin, en dessous, l'écho désagréable mais inoffensif d'une lutte acharnée silencieuse, perdue d'avance. Quand le monde autour de lui commença à regagner sa substance, il était assis contre l'olivier, et elle était déjà debout, une goutte de sang coulant le long de sa jambe gauche, et elle se mit en chemin, en boitant un peu. Il lui cria « Demain, reviens ici, demain ». Elle répondit oui sans se retourner. Elle ne protesta pas. Elle ne leva pas vers lui son poing serré. Chez elle, elle trouva sa mère en larmes dans la cuisine. Son père assis sur une chaise fixait le sol. Le lendemain, elle fut exacte au rendez-vous.
« À demain, » dit-il à nouveau.
« À demain, » répondit-elle. Et elle sut qu'elle ne pourrait jamais s'échapper, parce que si elle le tentait, il ferait du mal à ses parents, à ses frères et sœurs. Au troisième jour, elle se mit en route, avec une petite hache qu'elle cacha sous sa robe, et qu'on retrouva fichée dans le crâne de Pierre-Marie Romani, dont le cadavre couvert de crachats gisait sous l'olivier. Nul ne sait quelles funérailles furent réservées à sa dépouille terrestre, ni si quelqu'un osa porter son deuil en public. En ce qui concerne son séjour dans l'au-delà, le doute n'est en revanche pas permis. L'administration de l'enfer n'eut aucune hésitation quant à la nature du châtiment qu'il convenait de lui réserver. On raconte ainsi qu'il attend toujours dans une bergerie au soir d'un hiver qui ne finira pas avec, à ses pieds, tout près de la cheminée, l'ombre d'une petite chienne triste. Il devrait manger le repas que lui a préparé sa mère, mais il n'a jamais faim, et la vue des mandarines le fait frémir. Il ne peut s'empêcher de fixer avec terreur la porte close à laquelle, il le sait, quelqu'un va frapper, dans un instant, et pour l'éternité des nuits à venir. Une subtile chair de feu. Au commencement du monde, raconte-t-on encore, notre père et notre mère à tous vécurent un temps sous les frondaisons du merveilleux jardin dans l'innocence des bêtes. Ils étaient heureux, mais, ne le sachant pas, ils ne pouvaient jouir de leur bonheur, et ils demeuraient aveugles à la beauté. Le Seigneur, clément et miséricordieux, s'en affligea dans son cœur. Il craignait, s'il la modifiait lui-même, que sa création parût moins parfaite. Il appela un très puissant djinn, un de ceux qui lui étaient restés fidèles et exaltaient son nom, et lui ordonna d'aller ouvrir les yeux de l'homme et de la femme, afin qu'ils puissent voir le monde et se voir eux-mêmes, et louer leur Créateur.
« Va, » dit le Seigneur. « Je vais, et j'obéis, » répondit le djinn, et il s'approcha de l'homme et de la femme et caressa doucement leurs paupières. Notre mère vit pour la première fois la beauté des choses, le pelage du tigre et l'agencement des astres, l'arbre du savoir, ses fruits délectables, et le serpent, confortablement enroulé autour d'une branche qui lui souriait d'un air engageant.